C'est sur cette belle chanson de Mélissa Lavo qui s'appelle Cousine que j'avais envie d'introduire et de commencer ce plateau radio. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue, je crois que c'est la deuxième du festival Texte en l'air. On est bien, on est dans le jardin, on est à l'ombre des platanes. Ouais, des platanes. Et on va passer... Non, pas des platanes. Voilà, ça c'est les urbaines qui arrivent à la campagne et qui savent pas nommer les arbres. Qu'est-ce que c'est? Dites-moi, aidez-moi.
Ça c'est des platanes.
Oui, c'est
catalpa. C'est ça? Ça c'est quand même un platane.
Oui.
Bah merci. Attention, le public est exigeant cet après-midi. Donc c'est à l'ombre des arbres qu'on va faire ce plateau radio. Moi je suis très contente parce que on est rentré comme ça dans la programmation, on s'est glissé avec Radio Royan Vercors dans cette programmation du 22e édition de Texte en l'air pour avoir le temps de dérouler des thématiques, avoir le temps d'avoir par exemple les artistes associés au festival, les artistes en résidence, pouvoir aussi les entendre autrement que sur scène et pouvoir traiter d'une thématique. Donc merci beaucoup au festival Texte en l'air et particulièrement à Valérie Charpinet pour cette invitation et ce moment. On va se présenter. Donc moi je m'appelle Céline, je travaille donc à Radio Royan Vercors, je suis animatrice et j'ai à côté de moi Jean-Claude qui est super bénévole technicien qui va vous permettre d'entendre quelque chose et de faire la captation que vous pourrez ensuite retrouver en ligne sur notre site internet que vous pourrez envoyer à tous les gens qui avaient dit qu'ils viendraient mais qui sont pas là. Et on avait envie avec Valérie, quand on a préparé tout ça, de parler des enjeux d'habiter à la campagne, d'être une compagnie artistique ou être un artiste ou une artiste, d'habiter à la campagne, de créer à la campagne. Toute cette tension entre, vous voyez, le foisonnement qu'il y a à la ville, la question de faire aussi avec les habitants et les habitantes d'un territoire, qu'est-ce que ça impacte sur le travail de création. Donc on va avoir le temps cet après-midi de parler un peu de tout ça. Je tiens à dire aussi qu'on ne va peut-être pas toujours se comparer à la ville parce qu'on habite des territoires ruraux. On n'a pas toujours besoin de se comparer avec celles et ceux qui habitent à la campagne, à la ville. Et du coup, on va le prendre aussi comme une expérience en tant que telle. Et donc, j'ai la chance d'avoir quatre magnifiques invités. Merci à tous les quatre d'être là. Et notamment, je vous laisse vous présenter chacun, chacune, avec la porte d'entrée qui est qui vous êtes, qu'est-ce que vous travaillez, mais aussi où est-ce que vous habitez, est-ce que c'est la ville ou la campagne, et qu'est-ce que vous aimez dans le territoire où vous habitez. Qui veut commence?
Bonjour à toutes et tous. Ravie d'être là avec vous et avec Radio Royan. Donc je m'appelle Métis Navarro, je suis une des deux autrices avec Anourada à côté de moi qui est en résidence avec Texte en l'air cette année. Moi, je n'ai pas encore commencé ma résidence. Et il se trouve que je suis maintenant très proche de Saint-Antoine, puisque j'habite depuis 4 ans, exactement 4 ans, à Saint-Jean-en-Royans, donc, que vous connaissez, Royans-Vercors. Et c'est une installation récente, puisque j'ai vécu la plupart de ma vie à Paris, en région parisienne, et un petit peu au Mexique aussi. Mais donc, ça nous emmène un peu loin. Donc je me considère de fait comme une artiste, une autrice vivant en milieu rural, puisque c'est un peu l'expression qu'on utilise. J'ai encore beaucoup de liens avec les villes et par mes attaches personnelles, amicales et professionnelles. Mais c'est vrai que l'installation près des montagnes et un peu plus loin des zones de grande densité a changé beaucoup de choses pour moi. Donc, dans mon mode de vie, dans mon quotidien évidemment, et puis aussi dans la manière peut-être dont je travaille. De manière, enfin sur un temps long quoi. C'est-à-dire, je pense que j'apprécie beaucoup, et c'était aussi un désir, comme l'ont eu beaucoup de citadins avant moi, de sortir des villes, de se rapprocher un peu des lieux de production. Donc je parle des endroits paysans, de la nature en elle-même, d'être plus proche peut-être du cycle des saisons, d'un rapport un peu au sauvage, même si c'est vraiment entre guillemets. C'était aussi par rapport au fait d'avoir un enfant et d'avoir envie de l'élever un peu en dehors des grandes villes. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des années qui passent, je sens qu'effectivement, il y a des choses qui évoluent dans peut-être les sources d'inspiration, les temps d'écriture, les rapports aussi avec les gens qui m'entourent, que ce soit un peu des nouvelles relations à créer qui sont à la fois très proches de celles que j'ai pu avoir à la ville et parfois très différentes. Donc forcément, ça nourrit autrement. Quand moi, je venais quand même de Paris, donc en termes de fréquentation et de relations que j'ai pu avoir, c'était autre chose. Et en même temps, je n'ai pas l'impression, évidemment, d'avoir perdu quoi que ce soit. Mais c'est vrai que les modalités sont un peu différentes. Donc pour l'instant, j'en suis là. 4 ans, c'est encore jeune, mais en tout cas, ça suffit pour pouvoir dire quelques petites choses, quoi.
Tu fais partie de ce qu'on appelle communément les néos.
Apparemment, ouais. Néos, mangeuses de graines.
Ouais, dans le Royans, je m'associe à toi parce que j'habite aussi à Saint-Jean-en-Royans. On nous appelle les mangeurs de graines, les gens qui arrivent et...
Et je revendique, moi, j'ai pas de problème.
Peut-être qu'ils ont des valeurs écologistes, tout ça. On va en parler. Et toi, Anuradha ?
Et moi, donc, je m'appelle Anuradha Raghunandan. Je suis comédienne. Et je suis aussi autrice, donc je suis ici à Texte en l'air en tant qu'autrice. Donc comme Mathilde disait, j'ai été accueillie ici en résidence d'écriture à Texte en l'air, là c'est ma 6e semaine, pour écrire un texte qui s'appelle « Mon oncle Joseph », que je vais avoir ma sortie de résidence dimanche à 14h30. Voilà.
Et où est-ce que tu habites et pourquoi ça te plaît ?
Ouais, j'habite à Cornillon-en-Trièves, sur le plateau du Trièves, à 2 heures d'ici à peu près. Voilà, ça fait 10 ans que j'habite dans la montagne. Avant d'être dans le Trièves, j'étais sur le plateau du Vercors. Et voilà, et ce que j'aime, enfin, il y a beaucoup de choses que j'aime dans le fait d'habiter dans le Trièves, mais une chose que j'aime, c'est une forme de sentiment de communauté, je pense. Avec dans les villages, et c'est pas possible de passer à côté des gens en fait, et le fait on est obligé de faire avec les gens et avec des gens différents et que et voilà, et j'aime en fait et j'adore en fait ces trucs aussi d'ambiance de village, du samedi matin au marché, de voilà, j'aime ce sentiment communautaire-là. Même si c'est ce sentiment d'être avec les gens avec qui j'habite, qui habitent à côté de moi, parfois c'est pas facile. Dans le contexte de montée du fascisme, de l'extrême droite, ça peut aussi. Voilà, il y a des moments où ça me fait peur. Mais comme je me dis que de toute façon c'est comme ça partout, on est obligé de se le coltiner. Donc voilà. Et puis après aussi, une chose que j'aime, c'est la montagne et le je sais pas, sorte de, il y a quelque chose aussi de rassurant dans la montagne qui est là depuis des millions d'années. Ça fait voilà.
Un petit peu d'humilité ouais. De notre humanité.
Voilà, c'est ça, exactement. C'est ça, ça met en perspective.
Est-ce que toi, tu continues à faire des allers-retours avec la ville ? Enfin, t'es proche de la ville pour des questions professionnelles ?
Oui, je travaille beaucoup en ville. En fait, pas tant à Grenoble, mais en fait partout. Enfin, pas partout, mais partout là où je trouve du travail. Donc, ça peut être Marseille, ça peut être Saint-Étienne, ça peut être Bruxelles. C'est voilà, c'est ça peut être Lyon. Ça peut être Saint-Antoine-l'Abbaye.
Au lieu culturel. Ben merci pour ça, Nourada. On va avoir le temps de rentrer dans toute cette thématique. Et toi, Kobi, toi, tu n'es pas... Enfin, tu es artiste, mais tu es plutôt sur les arts visuels.
Oui, tout à fait. Mais en utilisant aussi le texte dans mes arts visuels. Voilà. Pour résumer, j'écris des bêtises sur des affiches que je sérigraphie et que je colle discrètement dans la rue. Donc plutôt en milieu urbain à la base. Et depuis une dizaine d'années, après longtemps avoir été sur Grenoble, je me suis exporté en terre plus que rurale, en Ardèche, au fin fond des Ardèches, sans aucun regret. Et je rejoins Anouada sur cette idée de communauté et qui permet d'aller plus loin que l'entre-soi qu'on peut avoir en ville. C'est-à-dire qu'on va, en ville, on va finalement se coopter. Il y a aussi du biais de confirmation. On va rencontrer finalement les personnes qui nous ressemblent. Et l'intérêt de la communauté villageoise, c'est finalement de rencontrer des gens avec qui on n'aurait pas forcément parlé en ville, soit parce qu'on n'a pas envie de parler avec eux, soit parce qu'on ne va même pas les rencontrer, notamment d'un point de vue politique ou loisirs qui ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres. Et effectivement, ce n'est pas toujours facile. On peut avoir des réflexes de citadin, effectivement. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant.
Et puis peut-être ce que tu pratiques, c'est-à-dire le collage, c'est une pratique assez urbaine aussi. Est-ce qu'on colle pareil des bêtises politiques?
Alors, absolument pas. Déjà, ça colle beaucoup moins bien sur du caillou que sur du béton. On est beaucoup plus vite repéré. Non, je travaille essentiellement encore en zone urbaine, en tout cas pour ce qui est de l'activité artistique première, c'est-à-dire effectivement de produire des œuvres et de les exposer, donc soit dans la rue sans autorisation, soit en galerie. Par contre, pour tout ce qui peut être atelier, j'essaye de plus en plus de me rapprocher de chez moi. Voilà.
Et puis on va y revenir parce que toi, t'as pas mal été aussi sur des territoires ruraux en travail avec les habitants et habitantes et notamment de faire avec les gens du texte, du slogan, des affiches. On va y venir sur ton travail parce que notamment dans le Royan-Vercors, oui. T'as eu une grande...
Un très bon souvenir. Ouais.
Ouais, et puis avec beaucoup de production, donc on va en parler. Et Véronique, je ne sais pas s'il faut encore vous présenter parce que peut-être tout le monde vous connaît ici, mais on va le faire parce que les auditeurs et auditrices qui vont écouter ça en podcast peut-être ne vous connaissent pas.
Alors, je suis Véronique Didier. Moi, je suis née ici. J'y ai habité jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis allée au collège, au lycée à Saint-Marcelin. Et après, je suis partie faire mes études à Grenoble et j'y ai habité 45 ans. Je suis revenue à plein temps en 2019. Donc je me suis tapé le Covid de plein fouet ici. Alors ça a été un énorme choc et en même temps une grande joie parce que le matin je me levais, je pouvais aller faire mon kilomètre, je voyais personne mais des oiseaux, des grenouilles. Et voilà, depuis je suis à nouveau à plein temps ici. Et ce qui m'amuse par rapport à ce que vous dites, moi à Grenoble j'ai vraiment connu des communautés comme ici. C'est-à-dire qu'on connaissait tous les voisins des immeubles, quel que soit le milieu social, il y avait cette vie de quartier, donc je retrouve ça ici. Et ça me plaît bien. Et je pense que ce qu'il y a en plus ici pour moi, c'est la nature, les oiseaux, les animaux, la présence de l'eau avec nos rivières. Et voilà, c'est vraiment ça la grosse différence que je trouve. Et puis j'ai la chance de continuer d'aller à Grenoble parce que j'ai des amis. D'ailleurs, il y en a qui sont là. Et je retourne à Grenoble et j'ai pas de coupure nette. Et du coup, ça me va vraiment bien.
Et vous êtes présidente de Texte en l'air, c'est aussi avec ce statut-là que vous êtes là sur ce plateau radio, parce que pour vous, ça a été important de vous investir bénévolement sur la question de la culture, de l'accès à la culture et du spectacle vivant dans un territoire comme Saint-Antoine-l'Abbaye.
Alors tout à fait, en fait, un petit peu avant que je revienne déjà... on m'avait, voilà, un jour je suis allée à la cantine éplucher des carottes, c'était le festival Texte en l'air. Et j'ai trouvé ça super. Donc je suis allée à l'Assemblée Générale qui a suivi. Et puis petit à petit, je travaillais encore, mais j'ai mis un pied dedans, puis deux. Et puis on m'a sollicité pour rentrer au conseil d'administration et j'ai trouvé que c'était pourquoi pas. Et puis voilà, petit à petit, on met le doigt, la main, le coude, l'épaule. Et voilà. Donc maintenant, je suis présidente depuis 3 ans, je crois. Et c'est vrai que je pense que ça fait partie des choses qui font que je suis contente d'habiter ici. C'est que ça existe ici. Même si je continue d'aller au théâtre à Grenoble ou à Romans ou à Valence. Je suis tellement, mais tellement heureuse. Et puis de me dire que... Donc voilà, ce village, il est très connu pour son patrimoine architectural, etc. Et moi, je suis vraiment ravie que le théâtre de maintenant, la poésie de maintenant, écrite par des gens qui sont là, vivants, qu'on côtoie, elles aient leur place ici aussi. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que je me suis investie dans Texte en l'air.
Donc du coup, vous avez entendu, on va écouter un... C'est le teaser de ton spectacle Animal, parce que j'avais envie qu'on rentre un peu dans ce sujet sur qu'est-ce que habiter les territoires ruraux. Alors vous avez commencé à nous donner des bribes de ça, mais comment ça influence votre travail ? Est-ce que c'est en termes de thématique ? Est-ce que ça ouvre des imaginaires différents ? Et peut-être tu peux nous en dire deux mots sur cette pièce Animal, Métis ?
Donc c'est lié un petit peu à ce que je vais continuer à travailler en résidence à Saint-Antoine-l'Abbaye. C'est un spectacle que j'ai créé assez récemment à partir d'un texte que j'ai écrit autour d'une enfant sauvage du XVIIIe siècle qui s'est échappée, qui a eu de multiples aventures et qui a vécu un long moment dans la forêt, alors dans une autre zone forestière dans l'est de la France. Et à partir de cette créature qui m'a un peu fascinée, un peu tout ce qui a été raconté autour d'elle, et puis surtout qu'elle s'était enfuie avec une autre jeune fille, une jeune fille noire, donc esclave, qui ne parlait pas la même langue, etc., et dont on ne sait rien. En fait, j'ai été un petit peu happée par cette histoire et j'ai eu envie d'écrire un peu ce que ça aurait été cette aventure entre elles, si on la connaissait. Donc c'est un texte autour de ces deux jeunes filles qui raconte de manière assez poétique le lien que Marie-Angélique Leblanc, à la fin de sa vie, essaye de recréer avec cette absente qui a été tuée et qui a été tuée comme une petite poule d'eau par un chasseur. Et donc j'ai proposé à une amie artiste, dessinatrice, autrice de bande dessinée avec qui j'avais déjà travaillé, qui s'appelle Lusa Lugrin, de monter un... Peut-être vous connaissez une proposition dessiner, quoi. C'est-à-dire que je dis le texte écrit et en même temps elle dessine. Alors on a travaillé ensemble avant, donc c'est pas du dessin en direct au sens où elle le crée sur le moment, elle l'a déjà créé avant mais elle le refait en direct et on s'est associé avec un musicien marseillais, on a créé ça à Marseille et voilà, c'est une petite forme qui dure à peu près une heure et donc on a fait un teaser que j'avais envoyé à Céline pour qu'elle se rende un peu compte qui est le début et une toute petite partie du spectacle. Donc vous n'avez pas évidemment le dessin qui est magnifique, mais il y a le travail voix-son je dirais sur ce petit échantillon quoi.
Eh ben on va l'écouter et ça vous donnera envie d'aller le voir sur YouTube.
Marie Leblanc est considérée comme l'unique cas d'enfant sauvage qui, découverte dans un état de régression comportementale avancée, a présenté, je cite, « une résurrection intellectuelle ». Après avoir passé de nombreuses années dans les bois, elle en est sortie en 1731, à l'âge débattu de 19 ans, près du village de Songy en Champagne. Elle a vécu dans la forêt avec une jeune fille noire, un peu plus âgée qu'elle, qui a disparu quelques jours avant que Marie soit attrapée et dont on ne sait à peu près rien. À bien des reprises, on a essayé de savoir d'où venaient les deux jeunes filles, de quel continent humain, de quelle région de l'animalité. Les paysages sont comme des décors sans personne. De forêt en forêt, nous traversons les distances et le temps. Tout ce qui nous ont appris nous quitte, comme une robe légère qui glisse le long des corps jusqu'à se déposer à nos pieds et que nous foulons. Ainsi, nous nous dépouillons des habitudes de la soumission.
Voilà pour ce teaser du spectacle Animal que donc tu tournes toujours. Et tu disais que donc cette question du rapport de la relation au vivant, aux animaux, c'est quand même quelque chose qui va aussi influencer la résidence qui va venir dans la deuxième partie de cette année, puisque la première partie c'était toi, Anuradha, la deuxième ce sera toi, Métis. Comment tu as envie de continuer à tricoter tout ça, même si là tu n'as pas encore commencé tout de suite, mais comment ça influence cette question de rapport au vivant, ton travail ?
Oui, alors je l'ai pensé un peu comme j'ai senti que cette figure de Marie-Angélique Leblanc m'avait beaucoup poursuivie et que j'avais des choses à faire avec elle. Il y a eu d'abord ce texte-là qu'on a créé assez récemment finalement et qu'on tourne cette saison. Et puis ensuite, il y avait une nouvelle, un récit qui correspondait à l'échappée de deux jeunes filles pendant la période des confinements. Même si c'était un peu en dehors des chronologies, ça correspondait à peu près à ça. Et c'était comme une espèce de variation contemporaine de cette fuite et émancipation de deux jeunes filles. Donc ça, c'était un peu un deuxième volet. Et là, j'ai pensé que j'avais envie de continuer, pas forcément encore avec le duo de ces jeunes femmes, mais à travailler sur la question de... à la fois un rapport à l'animalité et puis l'animalité présente en nous, dans un autre contexte. Et donc, c'est le projet que j'avais proposé au départ à Texte en l'air. Donc, ça fait quelques temps déjà. Donc, entre-temps, j'ai fait d'autres choses. Mais oui, c'est un peu ça que j'ai envie de prolonger. Alors, j'étais un peu intéressée par la question des procès des animaux au Moyen-Âge, qui est une chose à la fois connue et pas très connue, mais qui est à la fois drôle et assez intéressante, sur le fait qu'au Moyen-Âge, pendant un moment, les cochons étaient jugés responsables de leurs actes quand ils attaquaient un enfant ou qu'ils commettaient des dégâts dans un village. Aussi bien les insectes. Enfin voilà, on leur faisait des procès, quoi. Et donc, ça paraît drôle et en même temps, c'est intéressant sur la place qu'on leur accordait dans la communauté. C'est-à-dire qu'en fait, ils devaient répondre de leurs actes, alors suivant la justice humaine, donc ça, c'est un peu compliqué quand même pour eux, mais ils étaient considérés comme des parts de la communauté, enfin, de la création de Dieu, quoi. Donc ça, je trouvais ça assez... ça a attiré mon attention. Et puis, j'ai un lien un peu distendu pour l'instant qui a été un peu éveillé par le moment des confinements et le fait que le premier responsable, c'était ce pangolin, quoi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, après, depuis, il y a eu beaucoup de recherches et on sait pourquoi les animaux... enfin, quelle a été la part des animaux dans l'épidémie. Mais je trouvais ça intéressant de se dire, ah oui, en fait, dans cette épidémie mondiale qui est quand même beaucoup le fait de l'homme, on a mis l'animal comme catalyseur, quoi. C'est lui qui répand la maladie. Et donc voilà, j'avais envie d'essayer de trouver Enfin, c'est ça un peu mon objet de recherche pour l'instant. Ça, c'est la partie un peu théorique, comme j'en parle. Mais après, je passe par des petites histoires, quoi. J'ai envie de travailler des petites histoires sur nos relations aux animaux pour interroger un peu la place qu'on leur fait dans notre communauté vivante, quoi.
Et si on tire le fil là de ce que tu viens de dire, ça veut dire qu'on aurait besoin d'un coupable pour quelque chose comme aussi gros que le Covid, et que c'est plus facile d'incriminer une chauve-souris ou un pangolin que nos dirigeants au hasard ?
Je pense que c'est plus facile. J'ai pas beaucoup de mal à répondre à cette question. Mais oui, après ça peut se dérouler en plein de fils, quoi. C'est un peu la question de quand un chien attaque, est-ce que le chien est responsable ou le maître, quoi. Enfin, c'est-à-dire. Mais effectivement, ça pose des questions assez intéressantes sur quelle place on laisse aux animaux, entre guillemets, parce que animaux, ça veut dire vraiment beaucoup de choses, entre les animaux d'élevage, les animaux sauvages, etc. Et quelle place on leur laisse, et du fait du peu de place qu'on leur laisse, bah forcément que ça crée de plus en plus de court-circuit, je dirais, avec l'habitat humain. Donc ouais, ça, c'est une question qui m'intéresse. Et voilà, et par exemple, au moment du Covid, il y a eu beaucoup d'histoires au sujet des abattages, pas seulement d'ailleurs au moment du Covid et après des épidémies qui sont des zoonoses qui concernent principalement les animaux, mais au moment du Covid au Danemark, par exemple, on a abattu 17 millions de visons. Enfin voilà, c'est des chiffres comme ça, on se dit 17 millions quand même, parce qu'on a pensé qu'ils allaient aussi être vecteurs du virus. Et puis ça a été un scandale, et la ministre a dû démissionner finalement, parce qu'en fait, c'était insensé, quoi.
Trop
simpliste. C'est aussi des réactions absolument irrationnelles face à l'arrivée d'un virus. Donc voilà, c'est un peu l'arrière-plan de ce qui m'intéresse dans ce travail-là, mais après, comme je l'ai dit, moi, après, je rentre par des plus petites histoires, quoi. Ouais.
Bah, on a hâte de voir comment tu vas travailler ça sur cette deuxième partie d'année. J'avais aussi rapidement envie d'évoquer ton travail sur Terre Rebelle, qui était le travail avec...
Lisa, justement, ouais, avec Lisa Dudin.
Sur les communautés zapatistes, comment ça aussi nourrit... Parce que là, pour le coup, on est assez proche de la terre, du milieu rural. Enfin, je ne sais même pas si on dit ça comme ça au Mexique. Est-ce qu'on parle de campagne ou en tout cas, il y a un travail très politique autour de la réappropriation de la terre, tout ça. J'ai l'impression que ça a vachement nourri aussi ton écriture. On fait le grand écart, oui.
Saint-Antoine de l'Abbaye et San Cristóbal de las Casas. Oui, alors effectivement, j'ai été au Mexique et je vais pas trop. Je vais essayer d'être bref parce que c'est une longue histoire pour moi, mais dans les communautés indigènes zapatistes. Donc il y a déjà longtemps, mais j'ai vécu un moment et c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez bouleversant pour moi. Dans mon parcours politique, personnel, donc artistique forcément. Je n'avais pas pensé que tu allais me poser cette question, elle est intéressante, mais effectivement comme ça peut arriver dans des mesures bien moins grandes, parfois dans des communautés paysannes en France, en tout cas les zapatistes, ils ont construit des modèles politiques alternatifs d'autonomie qui sont essentiellement fondés donc, sur une autonomie de ressources. Donc forcément qu'il y a le travail de la terre qui est fondamental, mais aussi développer un système d'éducation, un système médical, etc., qui ne soit plus subventionné de l'État, quoi, du tout. Donc c'est une rupture très nette. Donc c'est une sorte de... Enfin, c'est pas une sorte, quoi. C'est un modèle alternatif qui a plus de 30 ans, qui est absolument unique au monde dans sa durée. Et c'est assez important de savoir que ça existe. Donc je ne sais pas si je retrouve ça, mais en tout cas c'est une espèce de chose vers laquelle on peut tendre, parce qu'on sait que ça existe, donc il arrive que des gens arrivent à construire d'autres choses, et c'est très inspirant, quoi. Et oui, donc c'est... la BD Terre Rebelle, effectivement, revenait un peu sur ça.
Oui, donc la BD que je vous invite à lire parce qu'elle est passionnante et aussi, voilà, parce que ça fait, comme tu dis, c'est pas directement là et à la fois c'est dans ton expérience de vie et du coup ça peut influencer ton travail comme une espèce d'imaginaire possible qui est pas juste un fantasme mais qui est une réalité.
Voilà, qui n'est pas une utopie mais qui est une réalité, ouais.
Toi, Anuradha, tu as fait cette première partie de résidence, enfin la première partie de l'année. Tu disais que ça fait 6 semaines et tu travailles sur un texte qui s'appelle « Mon oncle Joseph ». Ce n'est pas directement lié à la question de la ruralité, de la campagne, mais par contre, ça parle plutôt de cette grande thématique qui est aussi mise en avant à Texte en l'air, qui est nos héritages. C'est quand même une thématique que tu travailles avec, que tu as travaillé avec la compagnie La Lézarde sur d'autres textes. T'en es où dans ton travail ? On le verra dimanche, mais comment ça s'est passé pour toi cette résidence et comment t'as travaillé ce texte-là ?
Ma résidence s'est très bien passée. Et comment est-ce que j'ai travaillé ce texte-là ?
Ou plutôt de quoi ça parle pour donner aussi envie de venir voir dimanche.
Ouais, de quoi ça parle ? Alors ça parle d'une personne qui s'appelle Joseph, comme le titre l'indique. Et qui était gouverneur colonial. Donc, il a été gouverneur à Madagascar, au Gabon et au Pacifique austral, donc ce qui correspond actuellement notamment à la Nouvelle-Calédonie et aussi à ce qui est actuellement le Vanuatu. Voilà. Et du coup, c'est l'histoire donc de Tulsi, une personne qui existe aujourd'hui, enfin un personnage d'aujourd'hui, métisse, et donc qui apprend que donc dans sa généalogie il y a cet homme, ce gouverneur qui est donc l'oncle de son grand-père, et donc Tulsi part sur les traces de cet oncle Joseph et va à la fois mêler, enfin des archives familiales avec des archives nationales pour retracer la vie de cet homme, et donc à travers la pièce donne vie à différentes archives qui donnent en fait des aperçus de l'histoire coloniale française dans différentes régions du monde. Et il y a tout l'aspect de comment est-ce que Tulsi se relie ou ne se relie pas à cet héritage-là, qui est un héritage dont on ne lui a pas parlé, il n'y a pas eu de transmission familiale par rapport à l'existence de cette branche coloniale dans sa famille. Donc Tulsi découvre ça dans des archives de son grand-père. Et donc c'est comment est-ce que Tulsi se relie à ça, sachant que Tulsi vient et lui-même ou elle-même issu d'une histoire coloniale de l'autre côté de sa famille. Donc, c'est comment est-ce que ces différents héritages-là coexistent, dialoguent. Et donc, j'essaye d'écrire ça de façon à ce que ça parle de comment est-ce qu'à l'intérieur de nous, on porte ça. En tant que, à l'intérieur de nous, non seulement en tant que personne, mais aussi en tant que société. Voilà.
Tu veux dire, on porte ça, la question à la fois de la colonisation d'un côté et de l'autre, quoi.
C'est ça. Comment est-ce qu'on porte, en fait, nos histoires, les histoires avec des petits H, avec des grands H, et notamment l'héritage colonial, c'est quelque chose qui est extrêmement, qui est extrêmement présent dans notre société française actuelle, dans notre culture actuelle, mais qui est très peu nommé, qui est très peu raconté. Et ça nous appartient pourtant à tous et toutes. Ça a modelé, ça modèle toujours nos sociétés. Et donc, voilà, donc c'est pour parler de ça. Et, c'est aussi, et par ailleurs, c'est aussi une pièce qui va essayer de parler, de questionner la notion d'identité et de comment est-ce que... et de parler d'identité comme de quelque chose de complexe, de pluriel. Et pour moi, c'était d'autant plus important, là, dans un contexte où on entend beaucoup de discours identitaires très simplistes, qui voudraient nous faire croire qu'on ne peut être qu'une seule chose à la fois, porter qu'une seule culture, qu'une seule histoire, etc. Alors qu'en fait, on est tous des êtres complexes. Et voilà, donc c'est aussi, c'était aussi de, voilà, d'amener une réflexion sur ça.
Et du coup, comment ça va se passer pour reboucler avec la thématique d'aujourd'hui, qui est la question d'habiter sur un territoire rural. Toi, tu viens du Trièves. Ouais. Est-ce que c'est une pièce que tu imagines présenter là-bas? Est-ce que tu as commencé à en parler aussi aux gens, à ta communauté de vie?
Oui, bah justement, ça me questionne énormément. Moi, je travaille beaucoup sur les questions coloniales et sur les questions raciales dans mon travail. Et je me sens beaucoup en décalage, du coup, là où j'habite, à porter ces questions-là. Parce que j'ai... beaucoup l'impression, et je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une idée reçue ou une peur, mais que ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Et voilà, parce qu'il y a peu de diversité raciale visible là où j'habite, quand même dans la montagne. Alors il y a des campagnes où il y a plus de diversité raciale, où il y a eu aussi d'autres histoires d'immigration. Voilà, enfin, il y a des personnes racisées là où j'habite, mais on est un peu isolés, chacun a rasé les murs. Et que c'est sûr que je me vois plus facilement présenter ce travail dans des villes où j'ai l'impression que ça pourrait faire écho aussi à plus de personnes. Et que là, je me dis beaucoup, ah voilà, donc je vais encore écrire une pièce sur les questions raciales et coloniales à un public majoritairement blanc. Et donc ça me pose la question de à qui je m'adresse, ça me met dans une posture d'essayer d'être très pédagogique. À la fois, c'est intéressant parce que ça me force à ne pas être du tout jugeante. Et notamment, en abordant les questions coloniales, je trouve ça très important de... Enfin, parce qu'évidemment, j'ai des jugements, moi, dans ma tête, et j'ai des avis. Mais par contre, pour que la pièce donne à penser, à réfléchir, à imaginer, à se projeter, à sentir, je trouve que c'est très important de ne pas coller du sens politique et incriminer et juger. Et donc, le fait de me dire, bon, bah, probablement, le public auquel je m'adresse, un public qui peut-être se sent loin des questions coloniales ou ne se pose pas beaucoup cette question dans sa vie quotidienne, par exemple. Voilà, ça m'oblige à beaucoup de choses. Et après, par ailleurs, je me suis aussi posé la question, ah, est-ce que dans Mon oncle Joseph, j'intègre le fait que Toulsi habite dans un village de montagne? Est-ce que j'essaye de le relier? Et je suis allée au cimetière de mon village pour voir... pour ces questions de descendance, etc. Et le nombre de tombes avec des plaques sur les combattants de la guerre d'Algérie. Je me dis, mais en fait, l'histoire coloniale, elle est là, dans l'espace public, même en milieu rural. Et elle fait partie de l'histoire des familles et l'histoire des gens. Mais elle n'est pas racontée. Enfin, en tout cas, on ne la met pas en avant. On va aller parler de la résistance dans le Vercors, ce qui est important aussi. Mais en fait, il y a aussi tout. Enfin, voilà. Donc je me suis dit, est-ce que j'essaye de raccrocher ça? Puis après, bon, j'avais déjà tellement de fils à tresser dans mon histoire que je me dis, non, je ne fais pas ça, il faut faire des choix. Voilà.
Mais est-ce que ça pourrait être ramené d'une autre manière, par une discussion après la pièce ou par des retours, enfin, je ne sais pas, là peut-être c'était trop chargé dans, dans cette écriture-là, mais est-ce que ça va réapparaître d'une manière ou d'une autre, peut-être ?
Peut-être. Après, c'est sûr que tout ce qui est médiation autour des spectacles, c'est ça aussi qui permet de créer les discussions. Là, par exemple, ici, quand j'étais en résidence à Saint-Antoine, j'ai animé un atelier d'écriture qui était sur... sur des thématiques qui sont liées à celles que je travaille dans mon oncle Joseph, et notamment les généalogies, et comment est-ce que la grande histoire, l'histoire avec un grand H, traverse nos familles et nos histoires familiales. Et voilà, ça s'est très bien passé. Enfin, j'étais vraiment très contente de cet atelier, et je me suis dit que typiquement, cet atelier d'écriture-là, il pouvait être un atelier de médiation aussi, pour permettre à des gens qui peuvent se sentir loin de l'histoire coloniale de se sentir aussi proche de cette histoire-là en s'inscrivant en fait chacun dans l'histoire avec un grand H, et de sentir qu'on est tous traversés par ça, et que ça donne des pistes et ça donne des envies. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup apprécié, moi, ma résidence ici. C'est que ça m'a aussi permis de penser à de la médiation autour de mon oncle Joseph.
Et que ça a nourri probablement ton écriture. Trop bien. On va se faire une courte pause en écoutant une chanson de Anaïs Rosseau qui s'appelle June. Et comme ça, ça va rythmer un peu ce plateau. Vous pouvez vous servir du thé ou du café, c'est quand même le principe des causeries. Et on continue dans quelques minutes.
Guy like another guy, the only thing is into his glory. He doesn't care about the shoes he buys. Shame on the little faith he's carry on in his suitcase full of mystery. June is empty. Oh.
Voilà pour cette courte pause musicale. C'était Anaïs Rosseau avec le titre June. On est toujours sous les arbres dans ce thé ou café de causerie dans le festival Texte en l'air avec Radio Royan Vercors qui vous propose donc l'animation de ce temps. Et on parle du travail notamment de Métis et de Anourada, les artistes en résidence dans ce festival Texte en l'air. Et la question d'habiter en milieu rural et de développer aussi des projets culturels sur des territoires comme les nôtres. Toi, Kobi, t'habites en Ardèche. et t'es content depuis 10 ans, tu disais.
C'est ça.
Et t'as eu aussi l'occasion de travailler dans d'autres territoires ruraux, je disais, dans le Royan-Vercors, t'as eu toute une résidence l'année dernière, il me semble, ou l'année d'avant peut-être.
Il y a 2 ans. Oui.
Ouais. Je voulais savoir, toi, comment habiter en milieu rural ou aller travailler en milieu rural influence ton travail, qui est, comme on le disait, le collage, c'est assez urbain, tout ça, c'est des thématiques, ou en tout cas des manières d'expression assez urbaines. Comment ça influence, toi, ton travail créatif ?
Alors, sur le travail en lui-même, étrangement, alors il faudrait que j'aie peut-être un peu plus de recul, on en reparlera dans 5 ou 10 ans. J'ai l'impression qu'il n'y a pas un énorme changement, en tout cas sur l'écriture, dans le sens où ma principale source d'inspiration, finalement, c'est le discours médiatique. Et donc, qu'on capte exactement de la même manière en ville ou à la campagne, ce qui ne devait pas être le cas, ce qui n'était pas le cas à une certaine époque. En revanche, ça accentue, ça permet plus facilement le décalage, le pas de côté. Effectivement, quand on n'est pas au cœur de ce dont on parle dans les médias. Pour être très concret, j'adore CNews pour ça. C'est vraiment une source d'inspiration. Alors, faut être en forme pour écouter ça, sinon ça peut vite fatiguer, énerver. Mais sinon, c'est assez comique parce qu'il y a une systématique qui est des grosses ficelles. Mais le décalage est encore plus grand quand on a ce recul, quand on est un peu loin de là où ça se passe. J'ai l'impression, en tout cas.
Voilà. Tu veux dire que on peut écouter ces news partout et du coup ça peut nourrir l'envie de dire des bêtises,
oui,
qu'on soit à la ville ou à la campagne. Quoi.
Exactement, exactement. Y a aussi un côté rassurant, alors c'est ce que je disais un peu tout à l'heure et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire que quand on est à la ville, alors j'avais pas la même expérience que toi, Véronique, à la ville où effectivement mon cercle d'amis finalement était un peu coopté, enfin on se ressemblait tous un petit peu, notamment au niveau politique. Si justement je reste en ville et que j'écoute les chaînes d'info continues, j'ai beaucoup plus l'impression qu'on est au bord de la guerre civile que finalement en communauté villageoise où il va y avoir un peu de tout au niveau politique, certains surreprésentés éventuellement, suivant les lieux. Mais au-delà d'un vote, j'ai l'impression qu'il y a des réflexes humanistes qui sont bien ancrés et qui, entre deux élections où les résultats ne vont pas nous plaire, il y a des humains qui réagissent en tant qu'humains. Enfin, en tout cas, c'est mon présupposé peut-être un petit peu optimiste. Mais voilà, c'est un peu là ce que j'en tire des premières années à la campagne. C'est-à-dire que j'ai parlé avec des gens, concrètement, qui votent... déjà qui votent, et puis qui votent parce que j'aurais voté si j'ai voté. Et du coup, il y a certaines choses qui m'ont rassuré, en fait.
Ouais. Tu veux dire qu'il y a aussi la question de l'interdépendance, finalement, en milieu
y a
rural, en même temps, oui. Voilà, on a...
Il y a un petit côté offre et demande avec, avec les humains qui nous entourent. Et quand on a le choix, on va choisir les humains qu'on va fréquenter. On a moins le choix à la campagne, en tout cas si on veut interagir avec ses co-humains.
En communauté.
Et donc,
moi,
ça m'a permis de rencontrer des gens que je côtoyais pas du tout en ville. Voilà.
Ouais. Et du coup, dans le travail que tu fais, tu as été aussi en résidence artistique, comme par exemple là dans le Royan-Vercors. Tu as dû travailler, tu as pu travailler avec des groupes d'enfants, aussi dans différentes structures. Comment ça nourrit ton travail, tout ça ?
Alors, c'est super intéressant, effectivement, notamment avec les enfants. Et plus ils sont jeunes, moins ils ont de filtres. Donc, concrètement, les ateliers d'écriture que je propose, donc je propose aux enfants sur un thème généralement choisi à l'avance, c'est pas moi qui viens avec le thème, mais de travailler sur le deuxième degré. Et je propose aux enfants de créer leurs propres affiches, donc un exercice bien spécifique par rapport à écrire un texte. Il faut être très concis et puis éviter d'être équivoque. C'est-à-dire, je vais leur demander d'utiliser le deuxième degré, c'est-à-dire de finalement de militer à l'inverse du message qu'ils veulent donner. Donc par exemple, sur le Royan-Vercors, on était sur la gestion des déchets. Et donc l'idée, c'était de surtout pas trier, quoi. Il fallait tout balancer à la rivière, c'était ça la chose intéressante. Donc en expliquant aux enfants qu'effectivement, quand on est en premier degré sur une campagne d'affichage, ça ne marche pas. Sauver les bébés phoques, ça fait à peu près 80 ans qu'on a des affiches pour sauver les bébés phoques qui utilisent un petit phoque mignon. A priori, ils sont toujours en danger. Par contre, si on dit « tuons les bébés phoques », ça fait beaucoup plus réagir à une affiche qui va dire « faut les tuer, ça sert à rien, ça fait des super pantoufles ». Le cerveau qui va voir cette affiche, s'il n'est pas d'accord à la base avec ce propos, va beaucoup plus imprimer ce message parce qu'il va se mettre en opposition avec ce message. Donc de voir sauver les bébés phoques, oui, je suis d'accord, hop, ça me prend beaucoup moins de temps, beaucoup moins, c'est moins coûteux, et donc on va moins retenir la chose. Et donc, quand on joue à ça avec les enfants, bon, plus ils sont jeunes, moins ils ont de filtres, et donc il y a un moment où il va falloir les calmer en disant « non, là, c'est un peu trop violent ». Et du coup, moi, ce que ça m'apporte justement avec ces enfants, c'est parfois de me dire « j'aurais bien aimé avoir eu l'idée avant eux ». De pouvoir peut-être la déposer.
Ils ont des punchlines meilleures que toi.
Ça arrive, ouais. Mais ouais, c'est très énervant. voilà. Après, fondamentalement, faudrait que j'y réfléchisse, qu'on en reparle demain, peut-être. Ouais.
Ah, demain,
est-ce qu'entre les enfants,
de
la ville et les enfants de la campagne, j'avoue que je n'ai pas forcément de recul pour voir s'il y a une grande différence. Mais...
Nous, dans le Royan, on est quand même entouré de rivières, entouré des montagnes. Oui. C'est sûr que les enfants sont très imprégnés aussi du territoire sur lequel on est.
Oui,
et moi, je trouve que ça s'est ressenti dans les punchlines, dans les slogans. Que...
Oui.
D'ailleurs, ça me fait penser que j'aurais pu amener, j'avais fait des lectures avec des enfants de certaines des affiches. Du coup, on a des petites voix d'enfants qui disent « tuez les bébés phoques ».
Ça va être affreux.
C'est affreux, ouais. Mais bref, je les ai pas. mais tu as aussi travaillé avec les élus.
Oui, alors ça, c'est très, très intéressant avec la
commission
ordures ménagères de la communauté de communes Royan-Vercors. On les avait pas prévenus, sinon ils seraient pas venus. Alors, c'est des commissions généralement très techniques, parce qu'on parle, alors soit redevance, mais finalement, c'est ce qu'il y a de moins technique. Mais bon, voilà, tout ce qui est la gestion du ramassage et du traitement des ordures ménagères. Donc c'est des réunions pas super passionnantes si on n'est pas passionné de cette thématique. Donc on les a pas prévenus, ils pensaient venir sur un truc très très long piège. On leur a dit non, on va créer des affiches. Voilà. Ce qui était très intéressant. Alors avec les adultes c'est toujours un peu plus poussif. Justement ce que je disais, c'est-à-dire plus ils sont jeunes, moins ils ont de filtres. Donc ça a duré un peu longtemps. Et ce qui était intéressant, c'était à la fin, je leur ai demandé s'ils avaient été prévenus, est-ce qu'ils seraient venus. Ils ont dit non, parce que forcément, les élus locaux ont 25 réunions dans la semaine, donc s'il y a moyen d'en faire péter une, bon, ils ne vont pas se gêner. Par contre, après, je leur ai demandé est-ce qu'ils auraient préféré que ce soit une réunion technique. Là, ils ont dit non, donc c'était plutôt pari gagné, quoi. Mais... et ce qui était intéressant, c'était que la thématique était sur les ordures ménagères, et c'était très, très intéressant. Donc c'est les techniciens de la communauté de communes qui m'ont proposé de faire ça. J'ai même pas osé y penser. Et je trouvais ça très, très intéressant qu'ils prennent ce pas de recul eux-mêmes. Voilà. D'autant que le second degré, c'est pas du tout naturel et qu'il n'y a pas de moment dans la scolarité où on apprend ça. Enfin, sauf rencontre avec un ou une professeure, mais c'est pas officiellement prévu, quoi.
Et l'éducation, et l'éducation populaire quand même, l'écolo,
oui,
les accueils de loisirs, tout ça. Les intervenants extérieurs qui viennent justement travailler.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait.
Et du coup, d'ailleurs, tes affiches ont été placardées. Alors je me suis dit, c'est bien, il est payé pour faire du collage sauvage.
C'est encore pire que ça.
Sur les poubelles, donc sur tous les conteneurs de tri du Royan-Vercors, donc jusque sur le plateau du Vercors. Et du coup, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant de comment finalement ton travail artistique, travailler avec les élus, les enfants, d'autres adultes, d'autres ateliers que tu as fait à la recyclerie ou des choses comme ça, se retrouve visuellement accessible à tout le monde. On est encore sur une autre démarche que de venir à un spectacle. Et je me suis dit, ah oui, dans un territoire comme le nôtre, qui n'est pas, pas urbain, où on est sur des poteaux ou des vitrines, là, on a quand même eu accès à cette question du collage, quoi.
C'est ça qui est très intéressant dans le street art, en tout cas dans l'investissement dans l'espace public, c'est qu'effectivement, il y a un côté un peu invasif, dans le sens où les gens n'ont pas le choix de tomber dessus. En revanche, du coup, ça touche un public beaucoup plus large. C'est-à-dire que finalement, en exposition, en expo, en salle d'expo, le public s'attend à voir quelque chose, à être potentiellement surpris. Mais du coup, il l'est moins que s'il est réellement surpris. Enfin, le décalage entre le discours, effectivement, là, c'est décollé sur des poubelles. Par contre, je voulais juste saluer la communauté de communes, enfin les techniciens surtout, et une technicienne en particulier, parce que j'étais payé, mais même pas pour aller les coller, c'est eux qui sont allés coller sur les, sur les poubelles. Ça, c'était très sympa. Hein.
Merci la CCRV.
Exactement.
Et pour faire le lien avec notre deuxième thématique, qui serait plutôt la question du réseau professionnel, comment on travaille quand on, quand on est artiste en milieu rural? Donc on l'a entendu, hein, il y a la question de l'inspiration, de comment ça, ça touche des imaginaires différents, mais il y a la question aussi de, ben, il faut travailler avec des gens, il faut trouver des lieux où par exemple présenter son travail, ses lectures, son spectacle. Toi Kobi, est-ce que tu trouves des choses uniquement sur ton territoire? Comment tu vas démarcher en termes de réseau professionnel, parce que c'est très niche, c'est très spécifique ce que tu fais, quoi.
Oui, effectivement. Alors, je me suis installé loin des villes avec l'hypothèse de départ que je n'allais pas travailler sur le territoire que j'allais habiter, justement parce que c'était un peu une forme urbaine. En tout cas, c'est ce qui me semblait être. Et en fait, j'étais invité dans plusieurs, un peu comme dans le Royan, c'est-à-dire que j'ai pu faire quelques résidences et surtout des séries d'ateliers sur place en Ardèche. Et puis, de fil en aiguille, sans forcément chercher à le faire, parce que j'arrivais dans une communauté villageoise et j'avais un peu peur d'être estampillé l'artiste de service, un truc un peu bizarre. Voilà, donc je suis arrivé un peu en sous-marin. Et finalement, ça s'est très très bien passé. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis l'artiste de service. On est quelques-uns, hein, il y a quelques-uns.
Véronique, on en parlait juste là à la pause. Pour vous, c'est important de proposer, de vous investir, on disait bénévolement comme présidente ici à Texte en l'air, sur les questions de faire vivre un festival de spectacles vivants. Et vous parliez justement de la question de l'accueil. Pour vous, c'est quelque chose qui compte et qui fait peut-être la différence.
Alors c'est une question pour nous très importante parce que pendant le festival, on accueille plein d'artistes, plein de techniciens et des bénévoles et on essaie de les loger. Enfin, on les loge et donc on essaie sur le coup de trouver des gens qui les hébergent si possible gratuitement parce qu'on a des budgets tendus. Et moi, je suis toujours étonnée de voir que y a pas mal de gens qui sont ravis de cette rencontre et de ce que ça leur permet, qu'on peut pas, j'imagine, enfin moi à Grenoble, j'étais plus passive en tant que spectatrice, et là on devient actif parce que ben, même si on vient juste installer des chaises, ce qui est hyper important parce qu'on est content d'avoir des chaises, on installe des chaises et puis on a les autrices qui sont là, c'est extraordinaire, on peut parler avec elles, elles sont accessibles. On peut avoir chez soi un musicien, un auteur, une autrice, et ça c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est une richesse pour notre communauté ici. Avec une petite parenthèse, nous on choisit de pas choisir, tous les gens qui ont envie de venir, ils viennent, et ça se passe super bien. Moi, j'ai jamais eu d'idées, par exemple, qui auraient été échangées, qui aurait tourné au pugilat sur des idées politiques, alors qu'ici, c'est comme ailleurs. Quand il y a des élections, on voit bien qu'il y a un partage à qui vont les voix. Mais n'empêche que cette activité autour de Texte en l'air, et notamment pendant le festival, elle rassemble parce qu'on a d'humains tous en commun, et parce que les regards de tous ces gens qui s'invitent chez nous et qu'on invite chez nous, nous apportent. Et nous amène aussi à nous questionner et à se dire que ben, on est tous déférents, mais on est tous sur cette même planète et on a besoin de les uns des autres et de coopérer. Et voilà, c'est quelque chose qui me réjouit. Du coup, je remercie tous les gens qui participent à ça et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis contente de m'investir là-dedans.
Et alors, vous disiez à l'instant, vous parliez des financements. Je suis désolée, il va falloir en parler. Est-ce qu'un festival comme Texte en l'air, en milieu rural, tire la langue de ce côté-là, des questions de bouclage de trésorerie, de budget? Est-ce que du côté de... Est-ce qu'il y a des dispositifs particuliers quand on est en milieu rural au niveau, je ne sais pas moi, de la région, du département? Est-ce que... Alors, comment ça se passe tout ça ?
On a, nous, pour l'instant, on a la chance d'être soutenus par tous les niveaux, hein, la commune, la communauté de communes, le département, la région et l'État. Alors avec des niveaux qui sont parfois un peu plafonnés et parfois un peu en baisse, mais néanmoins pour l'instant on arrive encore à faire venir de l'argent. C'est toujours compliqué pour nous de voir si on peut augmenter la billetterie par exemple, parce que ça serait une solution facile. J'ai vu par exemple que MC2 à Grenoble cette année a augmenté beaucoup sa billetterie parce que leurs subventions ont beaucoup baissé. Nous, on a fait le choix cette année de garder les mêmes tarifs que l'année dernière et d'avoir aucun billet au-delà de 19 euros. Mais ça coince. Effectivement, je sens que là, sur les années qui viennent, j'ai beaucoup d'interrogations. On a beaucoup d'interrogations au conseil d'administration. Tous nos élus, le jour de l'inauguration, nous ont dit qu'ils continueraient de nous soutenir. La question, c'est à quelle hauteur ? Et puis, il y a des élections l'année prochaine. Ça n'aura échappé à personne. Donc voilà, on attend de voir, mais on est très vigilant là-dessus. Et pour moi, l'une des conditions de réussite, et quand je dis réussite, c'est pas juste il y a des gens qui viennent, c'est les gens, les Antonins viennent, les gens des coteaux autour viennent. Ben, il faut que ça reste accessible et donc on continue d'avoir à la fois plein d'événements gratuits et puis quand c'est du théâtre, parce que c'est coûteux, ben, qu'on puisse garder de la billetterie à des tarifs qu'on trouve, nous, pour l'instant encore accessibles.
Et Métis ou Anourada, justement sur ces questions-là de tension entre monter une compagnie, avoir besoin d'en vivre, assurer son statut d'intermittente, ou tout ça, est-ce que comment vous travaillez ça justement ? Est-ce que c'est des fois accepter de bouger beaucoup et d'être moins dans des territoires qui vous parlent ? Enfin, comment vous tricotez tout ça ? C'est une question vaste.
La question, c'est comment est-ce que je me débrouille dans le travail ? Ça bricole. Quand même, le principal de mon travail que je fais là où j'habite, c'est du travail d'animation. C'est d'atelier théâtre. L'année qui arrive, je vais animer des ateliers pour le périscolaire d'un village à côté de chez moi, pour des médiathèques qui font des accueils de scolaires, aussi des ateliers médiathèques pendant les vacances. Les années précédentes, j'avais bossé dans des écoles, mais à chaque fois, et ça, c'est un travail que j'adore, j'aime vraiment beaucoup le travail avec les enfants. Et pour le coup, quand je fais ça, là, ça fait sens pour moi d'habiter mon territoire et de travailler sur mon territoire. Parce que après, je croise les enfants dans la rue, les parents me disent qu'ils sont hyper contents, et ça me donne la sensation d'être utile sur place. Mais c'est que une partie de mon travail, et c'est vrai que la majorité de mon travail artistique, il est pas chez moi. Je me déplace, je suis fatiguée d'être en déplacement, je me sens parfois hors sol. Donc après, je m'investis à fond dans plein de trucs associatifs. Je monte un planning familial avec des camarades. Je me mets dans le conseil municipal de mon village. Et puis après, parce que j'ai besoin de sens là où j'habite. C'est ça. Mon travail artistique, il n'est pas chez moi. Donc je compense en fait comme je peux pour que ça fasse sens pour moi d'habiter là où je suis et de faire partie des gens. Et voilà, et donc si je peux présenter mon travail artistique une fois ou deux sur l'année, c'est le gros lot, quoi. Parce que il n'y a pas de structure subventionnée. On a un petit théâtre qui s'appelle Le Poulailler, qui est un théâtre privé qui fait un travail vraiment formidable, mais où on est payé à la recette, 50%. Et c'est des gens passionnés qui tiennent des lieux hyper importants avec 3 sous et c'est ça qui nous permet de nous produire sur place et de partager aux gens avec qui on habite, mais c'est pas ça qui fait l'intermittence, c'est sûr.
Oui, donc il y a toujours cette tension entre partir pour pouvoir aller jouer et à la fois t'investir là où t'es, et ça fait des grands écarts.
Ouais, et pas juste jouer, aussi créer. Ouais. C'est-à-dire que là, en fait, je suis venue ici pour pouvoir créer. J'ai été rémunérée sur le temps de création d'écriture. Mais pareil, toutes les résidences de création plateau en tant que comédienne, c'est toujours ailleurs. Enfin, il n'y a pas... Il n'y a pas un endroit dans le Trièves où on peut faire une résidence, être rémunéré pour un travail de création. Mmh. Et il y a quelques petits festivals pareils, avec des gens qui font vraiment avec très peu de moyens et de moins en moins de moyens. Enfin, on le sent que toutes les structures sont en difficulté. Et aussi, on est quand même pas mal, on est quand même pas mal d'artistes sur le Trièves. Et il peut... Et en fait... Et il y a pas, je dirais pas qu'il y a une, je dirais pas qu'il y a de la concurrence parce qu'il y a pas une ambiance de concurrence entre nous, mais de fait il y a une concurrence. Mmh. Et du coup tout le monde met beaucoup d'efforts à ne pas rentrer là-dedans et être dans des relations aussi de soutien les uns envers les autres. Mais si, mais en fait le, voilà, s'il y a un festival qui à un moment va pouvoir programmer un artiste local, et ben ça va être un. Mmh. Et donc voilà.
Et toi, Métis,
il y a beaucoup de choses communes avec Anuradha. Alors moi, je suis pas en compagnie. Moi, c'est pire entre guillemets. Je suis autrice, autrice indépendante. Donc moi, je suis arrivée plus récemment. Donc c'est vrai que je travaille plutôt avec des compagnies qui sont d'autres régions. Mais ça, c'est aussi lié à comment on crée dans un parcours de vie un peu long. On développe des amitiés professionnelles, artistiques et tout ça. Et puis quand on décide de déménager, bah, tout le monde ne déménage pas avec nous, quoi. Donc ces réseaux-là un peu se prolongent, continuent. Après, petit à petit, donc moi je suis très heureuse d'être à Texte en l'air parce que c'est une des premières fois que je travaille vraiment vraiment très proche de chez moi. Donc c'est un immense luxe là, pour moi. Et puis aussi la possibilité d'animer des ateliers, de rencontrer plus de gens. Et puis je commence à travailler à Grenoble. Alors c'est pas exactement la ruralité, c'est vrai, je reconnais. Voilà. Mais c'est quand même aussi pour moi un progrès dans le fait que je travaille de plus en plus près de là où j'habite et puis de problématiques qui sont quand même aussi parfois communes et qui sont intéressantes à croiser, parce que même si on veut pas opposer ville et campagne, il y a quand même des choses qui sont intéressantes à mettre en regard. Ça je le perds pas de vue, parce que je vais pas dire que 25 ans de vie en ville ça s'efface comme ça, et que j'aime aussi, je travaille pas mal à Marseille et j'aime aussi aller à Marseille. Enfin, je veux dire, c'est quand même aussi toujours des choses qui me nourrissent, des gens que je rencontre autrement, des ateliers que je fais là-bas. Donc je peux pas dire que ce soit seulement une souffrance d'aller travailler ailleurs, ce serait pas vrai. Je pense que artistiquement, on aime bien aussi pouvoir rencontrer des gens là où on est et ailleurs. C'est aussi important. Mais c'est vrai qu'après, sur la question de comment on vit de nos métiers, déjà, je pense que c'est compliqué pour tout le monde partout en ce moment, de plus en plus. Et que, bah oui, pour par exemple avoir la possibilité d'écrire une pièce et d'être payé pour l'écriture de cette pièce, il faut aller chercher des résidences, quoi. Donc parfois, on a la chance de rencontrer des gens sur le territoire comme Valérie ou les personnes de Texte en l'air. Et ça se fait près de chez nous, mais souvent, il faut aller chercher un peu là où ça se trouve et pour pouvoir s'offrir 2-3 semaines de travail rémunéré. Ce qui est quand même... Enfin, quand on considère que c'est son métier, on a besoin de ça, quoi. Mmh. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais ça nous amène aussi à bouger. Et c'est vrai que moi, j'essaye petit à petit de m'implanter de plus en plus localement. Et je suis aussi très, étonnée très positivement par le dynamisme de mon territoire, quoi. Culturel, artistique, c'est-à-dire qu'il y a la question des moyens, et je ne vais pas du tout dire que c'est super de créer avec 3 bouts de ficelle, parce que je pense que ce n'est pas vrai, mais quand même, il y a beaucoup de... Enfin, ce n'est pas du tout comme s'il n'y avait rien, quoi. Il y a énormément de choses, les gens se démènent pour créer des propositions qui sont vraiment super. À Saint-Jean, en Royan, je vois qu'à chaque fois qu'il y a des propositions, il y a aussi beaucoup de monde pour aller les voir. Donc on a envie de faire partie de ça aussi quand on est sur le territoire. Mais c'est juste qu'effectivement, il faut trouver comment équilibrer, comment nous, on peut vivre. Se réimplanter localement, faire des bonnes rencontres, travailler parfois dans d'autres conditions. C'est tout un... Ouais, c'est sûr que c'est pas la même implantation professionnelle que d'être en CDI quelque part, quoi. Ça nous oblige à nous déplacer beaucoup. Et puis je commence aussi à travailler à un collectif du Trièves, justement. Bon, ça, c'est aussi le bouche à oreille qui fait que petit à petit, je trouve un peu ma place ici, quoi.
Oui, ça me fait penser que des fois, il y a des préjugés aussi sur des gens qui habitent en milieu rural et en se disant, en fait, eux, ils ne doivent pas avoir accès à la culture. Il y a peu de spectacles ou alors il n'y a pas de cinéma. Alors, c'est vrai que dans le Royan-Vercors, Nous n'avons pas de cinéma. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a la CCR, donc l'Association de coordination culturelle du Royan, qui diffuse des spectacles depuis des années. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de salle, mais par contre, ils vont s'implanter dans toutes les salles des fêtes, des granges, des préaux, pour qu'il y ait de la diffusion de spectacles vivants. Et en plus, donc la CCR, c'est un peu les historiques, mais il y a effectivement, depuis quelques années, on pourrait dire, donc ça c'est aussi l'arrivée des néos, hein, mais un foisonnement de productions, de spectacles, de propositions artistiques variées. Et effectivement, il y a des fois des soirs où on a le choix entre plusieurs choses. Il n'y a pas besoin d'être à Paris pour se dire « mais à quel spectacle je vais ?» Et du coup, est-ce que l'un de vous trois, ça vous a effleuré de dire « ah, il faudrait professionnellement que je retourne en ville », même si j'entends que vous êtes très bien là où vous êtes chacun chacune, de se dire « ah, en fait là, si je veux m'en sortir, il va falloir que je retourne en ville ».
Non, a priori non.
On secoue la tête.
Alors, tant que les réseaux de transport marchent, ça devrait aller. Après, quand il faudra y aller à pied, bon, on verra. Mais effectivement, c'est aussi lié à ça.
Tant qu'il y a du pétrole, finalement.
Oui, oui, là, on est un peu tributaire du pétrole ou du nucléaire, effectivement. On est des artistes nucléaires.
Moi je me suis pas posé la question jamais, et en fait pour moi c'est beaucoup plus, enfin en fait moi si à un moment donné je renouvelle plus mon intermittence et c'est plus mon métier, bah c'est pas grave en fait, je préfère continuer à vivre là où j'habite et continuer à créer, bah je sais pas, tout ce que je fais là où je vis, et voilà, et voir ce que je peux trouver d'autre comme boulot dans un endroit où c'est de toute façon pas facile de trouver du boulot, mais plutôt que d'aller en ville pour une intermittence, quoi, ça. Puis, comme disait Métis, de toute façon, ça devient de plus en plus difficile pour tout le monde, ce boulot. Donc,
autant être avec les montagnes, quoi.
Autant être avec les montagnes, les oiseaux, le vent dans les arbres.
Attention, ça peut justifier des baisses de budget culturel en disant, bon, finalement, ils vont continuer, même s'ils ne sont pas payés.
Non, parce que moi, je ne me dis pas forcément que je vais continuer, en fait.
Oui.
En fait, moi, je suis vraiment prête à arrêter ce travail. Et,
même si c'est ça que t'aimes et que tu sais faire.
Ouais, mais il y a d'autres choses que j'aime. Et.
Ok.
Et. Ouais.
Non, mais disons qu'il y a plein de questions qui se posent en même temps. Quoi. À la fois, on se bat pour quand même des subventions publiques, du théâtre public, la décentralisation. Enfin, ça, c'est quand même. Je pense qu'on partage tout ça. Et à la fois, on a parfois des moments de pragmatisme où on se dit bon, bah, qu'est-ce qu'on est prêt à faire, nous, pour continuer ce métier Eh ben, on n'est pas prêt peut-être à déménager, on n'est pas prêt à accepter n'importe quoi. Voilà, je pense que c'est ça aussi où on peut se rejoindre. Quoi. Mmh. Je pense que ça, c'est des arbitrages différents suivant les personnes et les moments de vie. Mais là, je pense qu'on a tous quand même un peu une espèce de combat à mener pour ne pas perdre tout ce qu'on a encore. Quoi.
Mmh. Et on s'achemine doucement vers la fin de ce plateau. J'ai quand même envie de me tourner vers le public, et peut-être il y a des questions que je n'aurais pas posées à nos 3-4 invités et que peut-être qui vous brûlent les lèvres. Du coup, j'ai quand même envie d'ouvrir quelques minutes le micro avec, par exemple, mon micro. Si l'un ou l'une de vous a une question, n'hésitez pas, c'est le moment. Ou par exemple, le dernier micro noir là-bas, le quatrième, qui a un câble plus long. Est-ce que quelqu'un a envie de poser une question ? Oui ?
Question très de provocation un peu, c'est que les habitants et des élus vont vous dire « mais j'ai plus de poste, j'ai plus de boulangerie, j'ai plus de commerce » et vous nous demandez de continuer à faire de la culture, de financer des choses. Bon, j'ai des réponses, hein, moi en tant que aussi, mais je aimerais savoir, parce que c'était aussi la fin un peu de vos réflexions, est-ce que vous êtes capable de changer de métier au point d'être boulangère et en même temps de créer une pièce de théâtre dans un milieu rural, quoi.
La question, c'est pas la priorité, parce qu'on n'a plus la poste, on n'a plus, d'assistante maternelle ou j'en sais rien, des postes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vas-y, Métis, t'étais lancée.
Non, mais je sais pas, parce qu'à la fois, ça recoupe un peu l'histoire de la culture, est-ce que c'est essentiel ? Donc, ça, c'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Moi, j'estime que oui, personnellement. Après, la question de qu'est-ce qu'on peut faire comme travail si on n'a plus de travail, oui, moi, je peux travailler à la Biocoop. La Biocoop de Saint-Jean est très sympa. Mais enfin, je veux dire, j'envisagerais pas de me dire je peux rien faire d'autre qu'écrire. De toute façon, l'écriture, c'est pas seulement une question de rémunération, c'est aussi ce qu'on fait pour exister un peu, quoi. Donc, je peux tout à fait imaginer autre chose. Par contre, ça n'empêche pas que je pense qu'il ne faut pas tenir... Enfin, c'est pas ce fil-là qu'il faut tenir, quoi. Il faut...
Ouais. Je pense qu'il y a une différence entre la création artistique et puis un modèle économique de la création artistique. C'est-à-dire que, en fait, pendant longtemps, à titre personnel, j'ai fait cette activité sans qu'elle soit rémunératrice. Et c'est très récemment que je vis de ça, donc je pense que je continuerai de toute façon à le faire. Voilà. D'autant que... Enfin, oui, je ne sais pas si je vais continuer de toute façon en professionnel. Enfin, c'est quelque chose d'assez flexible. Mmh. Et le boulanger, ça m'intéresserait beaucoup. Ne serait-ce que pour moi, me nourrir.
Tu pourras écrire des bêtises sur les papiers voilà. Dans lesquels tu mets les pains au chocolat.
Ou carrément sur le pain. Ouais.
Ou sur le pain, ouais, carrément.
C'est un grand plaisir.
Une location. Ouais.
Complètement.
Il y a quelque chose à penser, là. Là, c'est la question de la résilience, finalement, de se dire, bon, bah, oui, je mets des grands mots, mais c'est en gros, bon... On est dans une période de montée du fascisme. On vient de se taper 3 canicules. Il va falloir qu'on invente d'autres manières de faire ce qu'on fait. Enfin, que ce soit du travail, par exemple, d'une radio associative libre qui existe depuis 40 ans. Je m'inclus dans la question. Hein. Ou du travail artistique. Enfin, en fait, comment on continue à faire ce qu'on fait dans le monde dans lequel on est ? Il y a une question, ou une réponse peut-être.
Merci aux artistes, mais je pense que ça sera l'occasion d'un autre débat, c'est qu'autour de ces artistes, et en particulier dans ces villages, il y a une dynamique extrêmement importante de bénévoles. Dans tous les projets, on parle de la participation des habitants. Ces habitants sont des bénévoles. Et je veux dire que cette implication énorme, j'en fais partie, on est un certain nombre à en faire partie, ça aide énormément les artistes, ça les accompagne et ça permet, alors moi je dis, d'amener la culture. Effectivement, moi j'arrive d'un grand village à Grenoble qui s'appelle la Villeneuve de Grenoble et ben c'est un village, on est un certain nombre ici à avoir quitté ou pas ce village, pas forcément de bon cœur mais pour des raisons X et Y. Et quand on se retrouve, c'est comme si on avait vécu dans une communauté. On a des souvenirs ensemble, on a des belles choses. Enfin bon, voilà. Donc ça, c'était le côté. C'est compliqué, la ville, la campagne. Bon. Et tout à l'heure, tu disais que souvent, c'est les néos ou les urbains qui amènent la culture. Et c'est vrai. Moi, j'habite à Saint-Véran. Il y a un espace de vie sociale. On est une bande de vieux là qui ont débarqué à Saint-Véran. Et ben la première chose qu'on a dit, on a dit mais bon sang, il faut de la culture là. Alors c'est bien, on s'investit, mais c'est pas évident non plus. On se retrouve des fois, ouais, ces gens viennent de la ville, ils vont. Alors c'est une réflexion permanente qu'on a pour pas être ressentis comme des donneurs de leçons. Ça veut dire qu'il faut qu'on connaisse notre territoire. On vient de la ville, mais vraiment, on fait très, très attention à ce qui existe. Il y a plein de belles choses qui existent, qui sont culturelles aussi, qui ne sont pas forcément la culture qu'on a eu l'habitude de défendre ou de pratiquer. Donc, il y a cette espèce, je pense qu'il y a le respect des uns et des autres. On est complémentaires. On peut amener, les gens de la ville amènent à la campagne amène. Enfin voilà, je voulais. Et là, je pense qu'il y aurait un vrai débat à faire sur cette implication des gens. C'est très très important.
Oui, merci d'amener ça parce que c'est vrai que pour pas passer pour des donneurs et donneuses de leçons, c'est important de se dire ok, culturellement il se passe quoi là où j'arrive, des choses qui sont très très ancrées, des vogues. Alors nous dans le Royan, c'est le rallye, le corso, ces éléments-là. C'est sûr que si on les dénonce, on crache dessus et on n'y va pas. On va être tout le temps dans cette, on va nourrir le clivage. Mais du coup, comment on défend ce qu'on a envie de défendre, notamment écologiquement, tout en travaillant ce lien. Et on parlait d'interdépendance. En fait, c'est des gens avec lesquels on vit, avec qui on est au café, à qui on achète notre baguette, pour revenir sur la métaphore de la boulangerie. Donc, c'est important. Mais ça crée des tensions aussi à l'intérieur de nous, effectivement, pour pas recréer ce truc des gens qui vont se retrouver entre nous, enfin entre eux, et donner des leçons. Et sinon, c'est sûr qu'on est dans le conflit. Hein. Ça marche pas. Donc on réfléchit à des stratégies. La culture, c'est ça, c'est voir des choses ensemble, c'est s'en parler, c'est partager des choses sensibles, effectivement. Une autre prise de parole.
Oui, bonjour et merci pour vos interventions. Une question qui me touche beaucoup. J'ai bien entendu vos difficultés, vos combats, vos bricoles pour arriver à vivre de vos métiers. Et quel est le rapport que vous entretenez avec les artistes amateurs des endroits où vous habitez ?
Je prends le micro pour dire que ce sera peut-être plus à vous de répondre. C'est-à-dire que j'ai longtemps été amateur, moi, dans ma pratique, dans le sens non rémunéré. Finalement, de gagner ma vie avec cette pratique, ça a pas changé cette pratique en fait. Mais il y a peut-être une différence entre les arts vivants et les arts morts. Donc celui que je pratique, c'est-à-dire que moi j'achève une œuvre. C'est dans ce sens-là que je parle d'art mort.
C'est horrible comme dénomination.
Oui, oui, c'est ce que j'aime bien. Mais
mort-vivant, à la limite.
Pardon ?
Mort-vivant, à la limite.
Oui, voilà. Pardon. Alors, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai créé une œuvre, moi, j'interviens plus dessus et puis elle appartient à ceux qui vont la regarder. Alors qu'effectivement, je suppose qu'au théâtre, il y a le fait de jouer devant le public et que l'œuvre est en live. Quoi. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire ça. Donc, le lien est très vite fait. C'est-à-dire que je me considère toujours comme un amateur, mais qui arrive à attirer des sous de cette pratique amateur. Voilà.
Métis, Anourada, ça vous inspire cette question du lien avec les artistes amateurs ?
Ouais. Moi, comme je disais tout à l'heure, je fais de l'animation du coup essentiellement pour les enfants. Du coup, moi, mon lien avec la pratique amateur, c'est celle-là. Après, il y a d'autres artistes sur mon territoire qui animent vraiment des ateliers pour théâtre pour adultes amateurs, pour ados amateurs, et qui font des trucs vraiment super. Et ça crée aussi un dynamisme vraiment hyper, hyper riche sur le territoire. Moi, je ne le fais pas, notamment parce que c'est souvent des formats qui impliquent des répètes toutes les semaines et que c'est assez contradictoire avec le fait d'être toujours par Mons et par Vaux. Et aussi parce que... Enfin, en tout cas, pour moi, vis-à-vis des publics d'enfants ou de jeunes, j'aime bien le service public. Et du coup, j'essaye de m'inscrire dans ce cadre-là. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc moi, c'est quelque chose que je pratique peu, mais il y a des gens chez moi qui le font beaucoup et ça fait vraiment partie. Et d'ailleurs, ça faisait partie de la réflexion que je me faisais là à propos de Texte en l'air, me dire c'est vraiment super ce format qui me mélange du coup des représentations de théâtre amateur et de théâtre professionnel et que ce soit vraiment ensemble et que je trouve ça très riche. Chez moi, il y a un petit festival qui s'appelle La Rurale et qui a le même principe où il y a à la fois des représentations professionnelles et amatrices. Et ça fait beaucoup de richesse.
Oui, une autre question. Bonjour, bonjour. Oh, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque. J'aimerais bien qu'un jour, si vous voulez, on fasse... parce que ça fait très longtemps que je suis ici, peut-être 40 ans, oui, quand même, quelque part. Il y a tout un milieu artistique d'écrivains, de poètes, de plasticiens, entre la frette, ici j'en connais, et qui sont... qui arrivent à survivre, soit parce qu'ils font d'autres métiers, et qui ont fait le choix de pour survivre, tout simplement... Ce qui veut dire que la culture, elle est là, elle est implantée, et qu'il y a une culture d'écriture, une culture de théâtre qui existe, une culture plasticienne, une culture aussi d'héritage, tout un peuple qui vit avec des... Donc je veux dire, quelque part, on n'a pas besoin d'apporter la culture ici. Et c'est un peu dommage parfois de mettre une espèce de frontière. C'est pas, je reconnais votre travail et je suis très content que vous soyez là, mais de dire, eh ben, on passe en milieu rural. Moi, il me semble terriblement que la culture, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain, elle a les mêmes problématiques. On est tous frères, quoi, camarades. Et voilà. Donc j'aimerais qu'un jour, au lieu d'avoir en face de nous des gens qui viennent d'ailleurs, et c'est terrible de dire ça, quoi, quelque part, on soit tous ensemble sur la même table.
Ouais. Juste, vous dites on a les mêmes problématiques. Est-ce que vous voulez juste nous dire rapidement ce que vous entendez par là ?
Très rapidement, si tu veux survivre en écrivant des poèmes, des livres, j'en suis au 10e ici, tu es obligé de travailler ailleurs, quoi. Je veux dire, Mais en même temps, tu fais ton boulot de poète, puisque bah, avec Radio Royan, je travaille. Donc,
sur une chronique bénévole qui s'appelle « Vous prendrez bien un dernier verre ».
J'osais pas le dire.
Voilà. Je m'en occupe.
Et donc, c'est la même chronique. À un moment donné dans ma vie, tu te dis bah, « soit tu nourris ta famille et tu continues de bosser sur bah, « je tirais des câbles sur le téléphone bah, ». Ça m'a permis une liberté d'expression. Parce que quand même, quelque part, si on parle de la ville de Grenoble, où j'étais à un moment donné, la maison de la poésie, tout ça, l'Union des écrivains Rhône-Alpes, si t'es pas dans le réseau, t'as un petit souci à te faire, quoi, quelque part. Et il faut parfois, de toute façon, à l'âge que j'ai, je m'en fous complètement, il faut parfois être au vernissage des conseils généraux, être bien vu pour obtenir des subventions ou avoir un livre édité avec du fric. Et ça, quelque part, c'est terrible. Mais ça se passe en ville, mais ça se passe aussi à la campagne. Donc moi, je milite quand même pour que tous les artistes, quels qu'ils soient, pas forment un syndicat, mais ça serait presque un rêve.
Oui, c'est la question de faire réseau, de montrer qu'on est là, qu'on produit. Effectivement, il y a tout un jeu à jouer. C'est important que tu le soulignes, merci. D'autres, t'avais... envie de rebondir? Non, juste se retrouver avec un micro.
C'est juste obtenu une réaction. Effectivement, il existe des syndicats d'artistes, que ce soit la CNT ou la CGT, effectivement. Oui, oui. Ouais. Bah, effectivement, je te rejoins là-dessus. Je suppose que les problématiques sont effectivement les mêmes à la ville ou à la campagne, dans le sens où s'il n'y a pas des gens qui font vivre, et je rejoins les propos de madame sur le bénévolat, enfin, bénévolat ou pas, mais en tout cas, qui est des... Ah ok, c'est fini.
Non, c'est notre technicien qui a un coup de fil.
Il faut que des individus se mobilisent pour que ça existe de toute façon. Ou alors on se contente effectivement de quelque chose de pyramidal où on attend que la manne culturelle tombe du ciel, mais bon, j'y crois plus.
Ah, il y a une volonté de prise de parole. Allez, la dernière et après, on rend l'antenne. C'est bien de dire ça quand on n'est pas en direct. Ouais, ça fait classe. Non, mais c'est parce que on est en décrochage sur France Culture. Ils ont bousculé les programmes pour texte en l'air. Pardon, je dis vague. J'ai chaud.
Ouais, merci. Donc, dans la foulée des deux remarques précédentes de Gilbert et de Michel et par rapport au bénévolat, moi, je voudrais dire que le bénévolat, ce n'est pas pour faire des économies. Ce n'est pas l'ADN. Le bénévolat, ce sont des habitants qui s'impliquent, des citoyens qui s'impliquent. Et pour la pousser un peu plus loin, c'est des gens qui ont plein de talents. Et dans le milieu rural, moi, pour être très impliqué dans une association, dans un EVS, espace de vie sociale, je me rends compte qu'il y a des tas de gens très doués. Et ce n'est pas parce qu'on est amateur qu'on n'est pas doué. Et si j'étais un petit peu dans le type de pensée d'Adrien, que vous appelez Kobe, mais moi je l'aime bien, donc je l'appelle Adrien.
Il voulait être en off, si, et c'est si, raté.
Si on est un petit peu provocateur ou second degré, etc., il n'y a pas à avoir de complexe d'infériorité ou de supériorité. Ce n'est pas parce qu'on est professionnel qu'on est meilleur qu'un bénévole. Il y a des bénévoles hyper doués. Et je pense qu'il faut le mettre en valeur.
Bénévole ou amateur, effectivement, tout le propos, ce n'est pas d'opposer la question amateur ou la question professionnelle. C'est aussi de se dire, tiens, quand je décide d'en faire mon métier, à quoi je me heurte et comment j'ai l'impression que c'était ça aussi notre propos. C'est aussi ben voilà, comment je cherche des résidences, comment je suis payé pour faire ce que je fais, comment je contribue à l'endroit où j'habite en étant ce que je suis et ce qui me met en mouvement dans la vie et dans le monde. Bon, voilà, des grandes questions, quoi.
Non, mais je pense qu'on est, enfin, moi, je suis absolument d'accord avec ce que vous dites. Je ne sais pas à quoi tient le fait d'un moment être un artiste professionnel, un artiste amateur, des choix de vie, des circonstances, des rencontres qu'on fait dans la vie qui nous, je ne sais pas comment dire, qui nous accompagnent, de la chance. Enfin, je pense qu'il y a tellement de paramètres, mais c'est évidemment pas, enfin, je veux dire, il y a des gens qui créent des choses et on ne fait pas de hiérarchie entre ceux qui en vivent. Enfin, personnellement, en tout cas, je veux dire. On a envie de les découvrir au même niveau. Après, comment elles sont valorisées, c'est autre chose. Mais ça rejoint un peu aussi ce que disait monsieur sur les réseaux, sur tout ce qu'il faut faire pour pouvoir montrer et faire connaître ce qu'on fait.
Et qui est coûteux des fois, parce que des fois, on est très bon dans ce qu'on s'est créé. Mais par contre, tout le jeu qu'il faut jouer, le vernissage, le machin, le jeu social et professionnel, des fois, on est peut-être moins bon et ça nous dessert.
Voilà. Écriture de dossier, par exemple.
L'écriture de dossier, la recherche de subventions.
Moi, je voulais dire quelque chose. Alors, je vous ai peut-être un peu coupé autour de ça, mais c'est mon expérience personnelle. Moi, la culture, c'est ce qui m'a toujours sauvée, quelles que soient les circonstances de ma vie. Et je pense que c'est, c'est ça aussi qui nous rassemble tous, je pense, c'est ce côté salvateur qu'on peut trouver dans les mots, les images des autres, dans les slogans un peu provocateurs, parce que moi, ça me fait bien marrer ce que tu fais, dans les écrits qui percutent ou pas, même des fois, on dit, bah non, c'est pas terrible, mais quand même, ça fait quelque chose. Et pour moi, c'est vital, vraiment. Alors, je suis à la retraite, moi, effectivement, je suis déjà payée pour rien faire. Alors, du coup, ça tombe bien, ça me permet de faire quelque chose pour la communauté, mais c'est d'abord pour moi. Soyons, enfin, moi, je suis honnête là-dessus, c'est d'abord pour moi. Mais je suis ravie de le faire avec vous.
Ce sera un magnifique mot de la fin. Merci, Véronique. Donc, c'est la fin de ce plateau radio de Radio Royan Vercors. Il sera trouvable, rediffusable sur. Il sera à l'antenne la semaine prochaine. Et puis, laissez-moi le temps de faire quelques nettoyages. Et je le mettrai en ligne début de semaine prochaine. Merci beaucoup à Nourada, Métis, Kobe. T'as été outé. Et Véronique, d'être venue discuter de tout ça. Et puis, de toute façon, tout ça, ce sont que des questions. L'idée, c'est de continuer maintenant en buvant un coup à parler de tout ça. Et puis, bonne suite de festival à Texte en l'air.